Bonjour, bienvenue dans La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach professionnel et praticienne narrative. Je vous livre ici un mardi sur deux un conte qui m'a inspiré, quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode 1 de La vie est un conte. Le conte que je souhaite vous présenter aujourd'hui s'appelle L'éléphant enchaîné de Roré Boucaille. Il était une fois, deux fois, maintes fois, un petit garçon qui adorait le cirque. Et ce qu'il aimait par-dessus tout au cirque, c'était les animaux. L'éléphant en particulier le fascinait. Comme il l'apprit par la suite, c'était l'animal préféré de tous les enfants. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille et une force extraordinaires. Mais tout de suite après, et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fiché en terre par une chaîne qui retenait l'une de ses pattes prisonnières. Or ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois, à peine enfoncé de quelques centimètres dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il lui semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère restait entier à ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'il retient? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas? À 5 ou 6 ans, il avait encore une confiance absolue dans la science des adultes. Il interrogeait donc un maître, un père ou un oncle sur le mystère du pachyderme, mais il n'eut aucune réponse satisfaisante, jusqu'au jour où il eut la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse.
L'éléphant du cirque ne s'échappe pas parce que, dès son plus jeune âge, il a été attaché à un pieu semblable.
Il fermait les yeux et l'imaginait, l'éléphant nouveau-né sans défense, attaché à ce piquet. Il était sûr qu'à ce moment-là, l'éléphanteau avait poussé, tiré et transpiré pour essayer de se libérer, mais que, le piquet étant trop solide pour lui, il n'y était pas arrivé malgré tous ses efforts. Il l'imaginait qui s'endormait épuisé, et le lendemain essayait à nouveau, et le surlendemain, et les jours suivants, jusqu'à ce qu'un jour, un jour terrible pour son histoire, l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigner à son sort. Cet énorme et puissant pachyderme que nous voyons au cirque ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit en être incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne peu après sa naissance. Et le pire, c'est que jamais, jamais, il n'a sérieusement remis en question ce souvenir. Jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force. Beaucoup de souffrances et de malheurs surviennent lorsque vous prenez chaque pensée qui vient dans votre tête pour une vérité. Edgar Tolle. Si vous avez eu des enfants, des neveux, des nièces, ou juste côtoyé des enfants d'amis, à l'âge fameux des « pourquoi », vous avez peut-être remarqué ce questionnement inlassable des enfants. Et pourquoi le ciel est bleu? Et pourquoi les chiens aboient? Et pourquoi la vache fait du lait? Ce conte met en scène un petit garçon qui a lui aussi cette précieuse curiosité et cette volonté de comprendre. Les adultes qui l'interrogent se sont peut-être posés eux-mêmes cette question sur l'éléphant quand ils étaient enfants, et puis, faute de réponse, ils ont cessé de chercher et peut-être même arrêté de s'étonner de cette bizarrerie. Ce qui m'a même à me poser cette question, combien de choses incongrues nous entourent et sur lesquelles nous ne nous étonnons plus? L'éléphant du conte n'interroge plus sa capacité à se libérer du pieu, car de son expérience du réel, il en a tiré la conclusion de son impuissance. Il est donc retenu ni par la chaîne, ni par le piquet, ni même par son manque de force physique, mais par sa croyance. C'est une croyance dite limitante en ce qu'elle l'empêche de faire quelque chose qui pourrait être souhaité par l'éléphant, se promener librement par exemple. Nous avons tous des tas de croyances. C'est à travers elles que nous appréhendons le monde. De façon générale, nos croyances gouvernent notre vie. Si nous voyons le monde tel que nous le voyons, si nous le comprenons tel que nous le comprenons, si nous vivons la vie que nous avons, c'est uniquement dû à nos croyances. Alors les croyances, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des pensées que l'on tient pour vraies et que l'on ne questionne plus. Elles deviennent des évidences, des certitudes. Nous avons besoin pour vivre et évoluer de ces certitudes car nous ne pouvons pas à tout moment tout réévaluer. Comment naissent ces croyances ? Elles naissent de nos expériences, de nos interactions avec notre environnement, de nos lectures, des paroles qu'on entend, etc. La première fois où nous sommes confrontés à une expérience, nous allons observer avec nos sens. Nous allons regarder, nous allons écouter, sentir le réel. Mais celui-ci est si infiniment riche de données que notre cerveau ne peut pas tout retenir et il va opérer une sélection. Donc vous voyez bien qu'en ce sens, il y a déjà un écart avec la réalité. Nous sommes déjà en train de construire une croyance. Le cerveau va garder certaines informations et en laisser d'autres. Cependant, comme nous n'avons pas forcément conscience de cette sélection, nous avons le sentiment que nous conservons la réalité. Une fois le tri opéré, le cerveau va donner un sens à ces données et il va construire de grandes représentations mentales qui vont nous servir de guide pendant toute notre vie. Ce sont des croyances sur la justice, l'équité, le pouvoir. Une fois une croyance forgée, elle va se renforcer, notamment à cause de deux biais cognitifs qui sont le biais de généralisation et le biais de confirmation. Notre capacité à généraliser est très précieuse car elle nous permet de catégoriser des objets, d'apprendre, d'anticiper, mais cette tendance à généraliser à partir d'un petit nombre d'observations peut aussi nous jouer des tours et alimenter nos préjugés. Le second biais dont je parlais est celui de confirmation. Le cerveau va avoir tendance à filtrer les informations des expériences futures pour les faire correspondre à la croyance initiale et ainsi engranger de plus en plus de preuves de la validité de la croyance. Beaucoup de ces croyances qu'on se forge nous sont utiles. Mais parfois ce n'est pas le cas, ou plutôt parfois elles sont utiles à un moment donné, mais pas à un autre moment, car l'environnement a changé. Si nous repensons à notre petit éléphant encore bébé, après des jours et des nuits à transpirer et à s'échiner, à tirer sur sa chaîne, sans doute que la croyance en son impuissance lui a épargné le gaspillage inutile de beaucoup d'énergie. Mais on voit bien que des années plus tard, cette croyance de son impuissance est obsolète. Ainsi, on peut dire que ce qui lui a servi, aujourd'hui, l'a servi en un mot. En fait, nos croyances forment le cadre dans lequel nous menons toutes nos actions. Tout comme cet éléphant, il pourra nous être utile parfois de désapprendre pour apprendre à nouveau et sortir des limites de notre représentation. C'est pourquoi, aujourd'hui, comme premier outil de coaching, j'avais envie de vous proposer une méthodologie pour déconstruire ces croyances limitantes. Alors, comment faire cela ? Déjà, avant de déconstruire une croyance limitante, il faut déjà, première étape, savoir la repérer. Ceci n'est pas simple puisque nos croyances sont la manière dont nous nous représentons le monde et donc ce sont ce que nous prenons pour la réalité. Nous allons devoir observer nos pensées et attraper au vol celles qui nous plombent, celles qui nous disent que nous ne sommes pas capables de faire quelque chose ou que ce n'est pas convenable. Les croyances limitantes sont généralement formulées comme une généralité ou une évidence. Les femmes ne peuvent pas faire carrière dans les grandes entreprises, elles sont bloquées par un plafond de verre. Quand on n'a pas fait de grandes études prestigieuses, on ne peut pas obtenir un poste de directeur. Ou des jugements sur soi-même, je ne suis pas capable de prendre la parole en public, je suis timide, réservée, personne ne me croit jamais, je suis trop âgée pour, à 55 ans on n'est plus employable, etc. Ces croyances, vous pouvez les repérer parce qu'elles sont souvent émaillées de « toujours »,« jamais », personne, tout le monde, chaque fois, je suis trop ou je ne suis pas assez. Donc, deuxième étape, une fois cette croyance repérée, ça va être de déterminer si elle me va ou si, en me limitant dans mes actions, elle m'empêche de faire quelque chose de bien ou de bon pour moi. Si je suis OK avec cette croyance, alors tout va bien, on ne touche à rien. Mais si au contraire, je réalise qu'en pensant comme ça, je me contrains ou que je ne peux pas réaliser certaines de mes aspirations, alors on va essayer de la déconstruire. Et là, il est important de se poser quelques questions. Qu'est-ce que cette croyance me permet de faire ou de ne pas faire? Quelle image j'ai de moi-même quand je crois cette pensée? Est-ce que cette croyance m'est utile? Est-elle opérante pour moi? Quel impact a-t-elle dans ma vie? En quoi elle me protège? Et en quoi elle me limite? En quoi elle me protège est une question importante, car quand on travaillera sur une croyance alternative, il faudra bien veiller à ce que ce besoin de protection soit comblé, même si c'est autrement. Donc passons à la troisième étape. Une fois que la croyance sur laquelle je veux travailler est identifiée, je vais œuvrer pour la déconstruire. Une première façon de prendre de la distance avec la croyance est tout simplement de dire j'observe que je crois que, et là j'énonce ma croyance. Puis je vais aller chercher des contre-exemples à la croyance, les exceptions à cette croyance. Pour notre éléphant de cirque, l'exception à son impuissance sera peut-être le numéro de cirque où il soulève avec sa trompe le dompteur, par exemple. Pour la croyance, quand on n'a pas fait de grandes études, on ne peut pas avoir de poste de directeur, bah je peux aller chercher des exceptions en interrogeant mon entourage ou même en allant sur des parcours LinkedIn. Et puis, étape 4, formuler une nouvelle croyance plus à mon avantage. Certaines personnes arrivent à des postes de directeur sans avoir fait des études prestigieuses. Il est donc possible de devenir directeur sans avoir fait de grandes études. Ça va être une croyance qui est crédible pour moi parce qu'elle va se fonder, elle va s'appuyer justement sur les contre-exemples que j'ai trouvés auparavant. Ensuite, cinquième étape, je vais me poser la question de savoir sur quelle première action je peux m'engager pour aller dans le sens de cette nouvelle croyance. Si je reprends l'exemple d'avant, je peux aller faire part de mon ambition de devenir directeur à mon entourage professionnel, ou peut-être dans un premier temps à mon entourage personnel. Modifier une croyance prend du temps, et à chaque fois que je me reprends le doigt dans le pot de confiture et que je repense cette pensée limitante, bah, je peux réénoncer ma croyance alternative en l'ancrant justement dans les contre-exemples que j'ai trouvés, des contre-exemples concrets. Maintenant, je vous propose, et je le ferai dans chaque épisode, qu'on élargisse un peu la focale et qu'on ne s'intéresse plus uniquement à l'individuel, mais aussi au collectif, c'est-à-dire au monde de l'entreprise. Si on met ce compte en parallèle avec le monde de l'entreprise, cela pose la question de quelle place donne-t-on à ce regard d'enfant? Et d'abord, avant de se poser la question de quelle place on donne, qui est cet enfant? Pour moi, je me suis dit, si je devais faire un parallèle, que l'enfant, pour moi, dans l'entreprise, c'est le nouvel arrivant. Il peut être tout à fait sorti d'école et être jeune, comme il peut être moins jeune et juste en mobilité interne ou alors nouvellement embauché dans l'entreprise. Et est-ce que j'interroge sur sa vision ce nouvel arrivant, au travers par exemple d'un rapport d'étonnement? Vous pouvez trouver sur Internet ou dans des ouvrages des tas de modèles de rapports d'étonnement. Ou alors vous pouvez aussi créer votre propre document. Personnellement, si je devais en créer un, je poserais les questions suivantes. D'abord, j'interrogerais sur qu'est-ce qui a marqué l'esprit du nouvel arrivant, qu'est-ce qui a retenu son attention, autrement dit. Quel écart a-t-il constaté entre ce qu'il avait projeté avant de venir et ce qu'est son quotidien aujourd'hui? Ou même quel écart entre ce qu'il a connu comme expérience auparavant et ce qu'il vit dans ce nouvel environnement? Et donc, l'interroger aussi sur ce qui l'a étonné en positif et qu'il est précieux de garder. Et puis, ce qui l'a étonné de façon peut-être un peu moins positive, et quels sont les apprentissages qu'on peut en tirer et quelles pistes d'amélioration. Voilà, c'est l'état d'esprit du rapport d'étonnement. Après, il y a peut-être plein d'autres questions à poser et je vous invite à vous renseigner. Mais en tout cas, il me semble que ce serait vraiment passer à côté d'une source précieuse d'informations que d'accueillir un nouveau salarié dans son équipe et de ne pas lui poser toutes ces questions. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous dans 15 jours pour un autre épisode de La vie est un conte où nous parlerons d'un fermier chinois et d'acceptation. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant, une bonne façon de le soutenir et de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestunconte.com. À bientôt.